première personne qui va se faire baptiser, c'est Hélène. Hélène, depuis son jeune âge, elle cherche un Dieu d'amour. Et elle a passé par plusieurs étapes avant d'y arriver, avant de connaître vraiment un Dieu d'amour, un Dieu véritable. Et c'est ce qu'elle veut nous partager ce matin. Hélène, si tu veux venir en avant.
Ben, vous m'excuserez ma nervosité, j'ai jamais fait ça. Mon nom.
Allô?
mon nom, c'est Hélène Doucet. Et puis, j'aimerais vous lire un verset. C'est de Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, comme j'ai dit, mon nom, c'est Hélène Doucet. Je suis originaire de Montréal, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans, et par la suite, majoritairement, sur la rive sud. Je suis d'une famille de 6 enfants, dont 3 frères et 2 demi-frères, du deuxième mariage de ma mère. Mon père était catholique non pratiquant, et ma mère était de la religion de sa famille pratiquait. Mais elle avait été dissociée par leurs dirigeants et donc ne pratiquait pas cette religion-là au moment de ma naissance. Mon premier contact avec une religion quelconque, selon l'histoire qui m'avait été contée, c'est qu'à l'âge de 4 ans, mes deux parents étant de religions très différentes, ne voulant pas que les 4 enfants soient baptisés dans la religion de l'autre, ont tout simplement choisi de nous baptiser dans une troisième religion, c'est-à-dire la religion protestante que j'ai jamais connue et qu'ils ne connaissaient pas non plus à part qu'ils baptisaient. Et puis, pour eux, le sujet du baptême était clos. Lorsque j'étais en deuxième année à l'école primaire, j'ai fait la rencontre pour la première fois en image amovible, c'est-à-dire coupée dans le feutre, des personnages bibliques du Bon Samaritain. Et puis, c'était une troupe d'animateurs pour enfants qui étaient venus à l'école que je fréquentais. Et ils nous ont présenté ce personnage-là. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Bon Samaritain, c'est l'histoire d'un homme rempli d'un grand amour qui est venu en aide à un homme qui avait été battu et laissé pour mort sur le bord du chemin. Et dans l'histoire, normalement, l'homme qui est venu en aide à l'homme qui était laissé pour mort, normalement, ces deux types d'hommes-là s'entraident pas. Et puis, quand j'ai vu ce grand amour-là, cet immense amour, je me suis dit, il y a un amour immense qui existe en quelque part, et mon cœur d'enfant a été très touché par cette image. Sans le savoir, c'était ma première rencontre avec la parole de Dieu et avec l'amour qu'il avait pour nous. Lorsque j'avais 12 ans, ma mère et mon beau-père nous ont déménagé de Montréal et ma mère a décidé de reprendre contact avec la religion de sa famille. Ma mère a donc fait venir une femme chez nous et puis pour me prendre la base de cette religion. Ma première introduction à qui Dieu était par le biais d'images dans un livre d'enseignement pour enfants de cette religion-là. Et puis, c'était l'image qu'ils m'ont montrée, c'était une vallée avec des morts, des gens,
des ossements,
puis c'était vraiment une image affreuse. On m'avait dit que j'avais demandé à M. Saint-Pierre de m'aider au cas où est-ce que j'oublierais quelque chose, parce que je trouve que c'est tout important, fait que surprenez-vous pas. Et puis, donc, cette vallée-là était une image d'ossements, et puis il m'avait appris que tous les gens qui étaient pour de cette religion-là allaient y être tués. Ils m'ont dit que je devais travailler tous les jours de ma vie très fort aux travaux que Dieu approuverait, sans jamais nécessairement avoir la garantie qu'il me sauverait ou qu'il m'aimerait, que je devais juste travailler très fort. Et puis l'amour de Jésus-Christ, pour eux, était juste une petite note en passant. Alors, moi, j'étais terrifiée de me retrouver dans cette vallée et je me suis mis à étudier très sérieusement leurs publications. Et puis, à travers la littérature de leur organisation, je me suis fait une image fausse de qui je pensais que Dieu était. Et j'ai travaillé très fort pour essayer d'être le plus sans péché possible. À 15 ans, pour pas être détruite, parce qu'il semblerait que c'était les seuls gens qui allaient survivre, je me suis fait baptiser avec eux, donc deuxième baptême, en pensant que c'était ça que Dieu voulait, que j'adhère à une religion, une organisation pour être sauvée par lui. Mais je ressentais toujours un vide intérieurement, quand même si j'étais dans cette organisation-là, parce que je connaissais pas vraiment Dieu, je savais pas vraiment qui il était, je sentais surtout pas vraiment son amour. Et puis, je vivais aussi une grande détresse depuis mon enfance, ayant vécu des abus de la violence familiale qui rendaient ma vie très solitaire et difficile à vivre. J'étais de moins en moins je m'impliquais de moins en moins dans cette organisation-là. Et à un moment donné, pour différentes raisons, ils m'ont dissocié. Ce qui voulait dire que pour toutes les gens que je connaissais, il n'y avait plus personne qui voulait être en contact avec moi, qui voulait me parler, qui voulait me regarder, même de peur d'être dissociés eux aussi à mon contact et que je les contamine d'une certaine façon. Certaines personnes m'ont aussi bien fait comprendre que j'étais considérée perdue comme une morte ambulante qui avait été rejetée. Puis de même pas faire un effort pour prier à Dieu parce que Dieu n'entendait pas la prière des morts. Alors, ils m'ont dit très clairement que le jour du jugement de Dieu, moi, ma mort à moi, l'ayant rejetée en n'acceptant pas d'être dans leur organisation, serait beaucoup plus atroce que la mort qui était réservée pour ceux que j'avais vus dans la vallée des morts dans le livre de mon enfance. Donc, pour moi, j'avais tout perdu, ce que je connaissais, ma famille, mes amis. Puis, chaque fois qu'il y avait une guerre dans le monde ou qu'il y avait une catastrophe naturelle, moi, j'attendais en terreur en me disant, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le jour où Dieu s'en vient me tuer? J'avais une peur, une colère injustifiée, en fait, contre Dieu, parce que je confondais ce que Dieu voulait et ce que la religion voulait, ce qui est deux choses très différentes. Jean 13, 35 nous dit « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Je me suis un jour demandé s'il y avait des personnes sur terre qui aimaient Dieu et qui voulaient vivre pour suivre sa parole et non pas une religion ou des pensées d'hommes. Alors, je me suis souvenu d'un épisode dans ma jeunesse où j'avais vu des jeunes baptistes et je trouvais tellement qu'il y avait beaucoup d'amour entre eux. Et je me souviens que ma famille m'avait mise en garde contre cette famille de baptistes-là en me disant qu'ils suivaient la Bible de beaucoup trop près. Alors, pour moi, s'ils suivaient la Bible de si près, c'est qu'ils devaient sûrement aimer Dieu, en quelque part. Donc, j'ai cherché ces gens, même si j'avais été chaudée par la religion, et j'ai trouvé un pasteur dans la région où je vivais, sur la rive sud, et qui a pris une patience infinie à essayer de répondre aux questions que j'avais. J'ai dû déménager, et puis alors, on m'a référé ici à l'Église de l'Espoir, où plusieurs hommes et femmes remplis de beaucoup d'amour et beaucoup, beaucoup de patience ont commencé à essayer de répondre et ils ont réussi afin que je puisse connaître Dieu, mais cette fois-là, grâce à sa parole, la Bible. Psaume 34, 18 dit « Lorsque les hommes justes lancent leur cri vers lui, l'Éternel entend aussi, il les arrache à toute leur détresse. » Tout ce temps, j'étais quand même, je voulais être aimée de Dieu, puis ma vie n'allait pas vraiment. Je savais plus vraiment quoi faire puis pour que ma vie devienne mieux. Puis je me souviens avoir supplié Dieu en prière pour m'aider parce que j'étais vraiment rendue à mon plus bas. Et il m'a répondu. Alors, il m'a envoyé une bonne personne avec qui j'ai pu commencer à parler de mon vécu et puis qui m'a beaucoup aidée. Et je suis allée aussi à l'église baptiste anglophone à Greenfield Park avec une amie qui m'avait demandé de l'accompagner. Je la remercie encore aujourd'hui. Et le pasteur, il a parlé de Jean 3,16. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, je connaissais ce verset, mais c'était la première fois que j'étais bouleversée par l'amour de Dieu, que l'amour qu'il m'offrait en envoyant son Fils Jésus-Christ pour mourir pour mes péchés. le fait que Jésus-Christ savait qu'il venait sur terre pour mourir, pour que moi, je puisse avoir la vie éternelle, et qu'il est venu pareil, ça m'a bouleversée. En même temps, je me suis rendu compte, si Jésus-Christ était capable de venir sur terre et me pardonner moi qui se trouvais une nobody, une moins que rien, une personne pleine de péchés, alors qui est-ce que j'étais moi pour ne pas pardonner à ceux qui m'avaient si grandement blessé dans ma vie? Alors, Dieu a opéré un changement ce jour-là. Il a commencé à mettre de la compassion dans mon cœur pour ces gens-là qui ne connaissaient pas vraiment Dieu et son grand amour. Il a commencé un œuvre de pardon à l'intérieur de moi, envers moi-même et envers les autres. Donc, Dieu n'était jamais très loin de moi. Il voulait juste que je croie en son Fils Jésus et en son sacrifice. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui de quand je me suis fait baptiser, quand j'avais 4 ans et que je ne connaissais rien de ce qui se passait, ou quand j'ai été baptisée à 15 ans, quand j'ai voulu faire partie d'une organisation et devenir membre? C'est qu'aujourd'hui, je sais que je suis un pécheur, je demande pardon à Dieu pour mes péchés. Et je sais aussi que Jésus-Christ pardonne mes péchés et il est mon sauveur et il est mon Seigneur. Aujourd'hui, je me fais pas baptiser pour faire partie de l'Église baptiste, pour faire partie d'une organisation, pour apaiser la conscience des gens dans leur idée de ce qu'ils ont fait, de ce que Dieu veut. Aujourd'hui, je le fais parce que Dieu nous le demande clairement dans sa parole de la Bible. Moi, j'ai reçu cet amour-là de Dieu que j'avais connu, que j'avais senti en deuxième année. Et pour moi, je désire l'aimer lui et son Fils Jésus-Christ. Et je vous en souhaite autant. Merci.
Parfois, Dieu prend un long cheminement pour venir nous chercher, nous toucher. Et peu importe où on peut être de la région de Montréal, mais on peut être très loin aussi, Dieu fait son œuvre. Maintenant, je vais présenter Christian. Christian a un cœur. Il recherchait lui aussi un Dieu qui l'aimait, un Dieu bon. Et c'est ce que Christian va nous partager.
On m'entend? OK. Sam, essaye pas. Bon, moi, je suis Christian Manta. Je suis le fils unique de mes deux parents. Oui, il y en a que ça arrive que c'est comme ça. Je viens d'une lointaine contrée, on appelle ça l'Abitibi. J'ai 27 ans, mais dans mon cœur, je reste quand même un enfant. Dans Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, ce n'est par moi. » Depuis que je suis tout jeune, je ne peux pas nier que tu existes, parce qu'il a toujours été là pour veiller sur ma famille, sur mon père, sur moi. Comment expliquer qu'on a survécu à toutes ces épreuves-là, peu importe qu'est-ce qui arrivait, qu'on a eu quelques blessures, mais qu'on a quand même survécu sans séquelles? Mais aussi, comment expliquer qu'on a une relation si forte? On s'appelle tous les deux jours. Mais la vraie épreuve, c'est que ma mère est schizophrène. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide, puis ça a quand même ébranlé notre famille. Malgré ça, par mon éducation, puis par les événements, ça a fait que j'ai un cœur qui veut aider les gens, qui veut les voir sourire, les faire rire. Mais plus je tentais, plus j'essayais, plus j'avais de la misère, plus je voyais qu'il me manquait de force, qu'il me manquait d'énergie pour réussir ça. Je ne sais pas aider comme je le voulais dans mon cœur. Peu à peu, je vieillis. Dans l'adolescence, j'ai commencé à jouer à Donjons et Dragons. Mais c'est de même que l'Éternel est venu me rejoindre. C'est de même qu'il est venu me chercher, parce qu'il y a un type de personnage là-dedans, un paladin qui... un type de personne que je trouvais qui me manquait dans la société. Puis j'ai voulu devenir comme ça. Mais même là, j'avais de la misère à suivre ces principes-là. La grande différence entre un chevalier puis un paladin, le chevalier travaille à sa propre gloire, tandis que un paladin, c'est pour la gloire de son dieu. Fait que j'ai cherché un dieu à servir. Mais j'en trouvais aucun. Avec mon enseignement religieux catholique que je connaissais, ça marchait pas le dieu qui me présentait. Il y avait les attributs de Dieu qui étaient bons, généreux, souverains. Et le Dieu qu'on me voyait avec l'Église, les inquisitions, les croisades, je ne pouvais pas voir qu'un Dieu accepte des choses comme ça. J'ai commencé à penser rationnellement, qu'est-ce que pourrait faire Dieu? J'ai pensé qu'il fallait qu'il soit bon, fallait qu'il soit plein d'amour. Mais avec ça, j'ai cru en des principes que je me suis imposé. Et je les ai suivis. Mais j'avais de la misère, je ne réussissais pas. À un moment donné, il est venu me chercher. Il a fait « Salut, je suis là. Tu me cherches? Ben, je suis présent. » Que malgré mes faiblesses, malgré mes péchés, il m'aimait. Que c'était pas, il m'aimait pas pour toutes mes bonnes actions, mais parce qu'il m'aimait, parce qu'il aimait l'humanité en tant que telle. Et qu'il a donné son fils pour ça. Qui est mort pour nos péchés, mais qui est ressuscité. C'était ça ma conversion. J'ai cru en lui, avec une condition bizarre. Je voulais qu'il soit bon. Puis j'ai cru en lui. Peu à peu, je réussissais vraiment à aider, à changer. J'ai changé. Je réussissais à aider, puis à être aussi bienveillant que je le désirais. Puis j'ai vu que j'avais trouvé la personne, l'être qu'il me fallait. Parce que c'est avec lui qu'on peut avoir cette force-là. Parce que c'est toujours un fardeau plus lourd que ce qu'on est capable de faire. Mais je me sentais tout seul. Je me sentais unique. Puis j'avais l'impression d'être tout seul contre le monde, à tenter d'être à contre-courant. J'ai décidé de partir de l'Abitibi. J'ai déménagé dans une autre ville. J'ai commencé une nouvelle vie, puis j'ai commencé peu à peu à apprendre comment il était. Et j'ai ouvert une Bible pour une première fois. Je trouvais que la Genèse était plate, l'Évangile aussi, j'ai commencé par les psaumes. Puis au psaume 15, c'est là que j'ai vu Dieu dans toute sa gloire. Dans le psaume 15:2, l'homme a la conduite intègre qui pratique la justice et dont les pensées sont honnêtes. C'est là que ça m'a frappé. Le Dieu que je cherchais, il avait un nom, YHWH, le Dieu vivant. C'était lui que je cherchais. Ironie, je l'ai trouvé dans la Bible. Mais au fil de mon âge, j'ai toujours commencé à écrire des petites phrases que je trouvais intelligentes à des endroits. Puis c'est quand j'ai commencé à lire l'Évangile, après avoir fini les psaumes, que toutes les petites phrases que j'avais écrites étaient dans l'Évangile. Ça m'a troublé. Mais c'est comme ça que Dieu est venu me chercher. Il a semé petit à petit. Pour tout rassembler. Après. J'ai décidé d'aller faire un bac en théologie. J'ai encore déménagé. J'étais arrivé dans un bâtiment bizarre. Là. Il est vert. C'est un centre commercial. On appelle ça l'église Longueuil. Mais pour une fois, je me sentais avec une famille. Même s'il y a deux de mes proches ici, donc il y a trois. Mais c'est ici que je sentais quand même avoir une famille, en plus de ma famille. Ça fait du bien. Au Dieu que j'ai vu, j'ai juré allégeance, de le servir, de le suivre. Ce que signifie l'allégeance, c'est d'accepter l'autorité de son protecteur et de se plier à ses commandements. Nous jurons allégeance à une personne qui représente l'idéal de ce que nous croyons, et acceptons qu'il soit notre maître et souverain. L'un de ses commandements, pour Dieu, pour Jésus, c'est de se faire baptiser, donc, et de rendre témoignage. Et c'est pour ça que je suis là. Je vais finir quand même avec un verset, là. Jean 6:29, Jésus leur dit, « L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé, et c'est Christ. » Amen.
sais pas si Christian... Oui, Christian est encore là. Tu vois, moi, j'ai joué à Dungeons & Dragons, puis mon personnage à moi, c'était Assassin. Hein? Chaotic Evil. Ça, c'était mon idole. C'était vraiment ça que je voulais devenir. Alors, t'as raison. Maintenant, mon image, ça va être le paladin. C'est réglé. C'est réglé. Quelle belle image. Quelle belle image. Ce que je trouve intéressant à travers les témoignages qu'on a entendus, c'est de voir simplement que Dieu se laisse trouver. Dieu peut prendre toutes sortes de parcours, hein? À travers Dungeons & Dragons, à travers le témoignage d'Hélène, on parle d'une personne qui était dans une organisation religieuse qui, à la limite, relève un peu plus de la secte que d'autres choses, d'accord? Et donc, on voit des fois ces choses-là, on voit toutes sortes de directions qui sont données, puis on dit, il y a tellement d'affaires, si Dieu existe, comment ça se fait qu'il y a tant de confusion? Et rappelez-vous le verset que j'ai cité tout à l'heure dans Jérémie. « Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et Dieu permet qu'à tâtons, à travers nos vies, à travers nos malheurs et nos bonheurs, ceux qui cherchent Dieu, il va se révéler à eux progressivement pour éventuellement leur faire connaître une personne vraiment spéciale. Alors, ça me touche vraiment de voir que Dieu a toutes sortes de chemins qu'il va prendre pour différentes personnes. Ce matin, on va assister au baptême d'Hélène et de Christian. Comme je le mentionnais tout à l'heure, pour les gens qui sont pas familiers avec le baptême ou qui avaient peut-être juste l'image du baptême d'enfant auquel on est habitué dans l'Église catholique, bien le baptême, c'est un moment important dans la vie d'un chrétien. C'est un moment spécial pour plusieurs raisons. Entre autres, c'est une pratique millénaire pour les chrétiens. Les chrétiens, depuis que Christ l'a commandé, depuis que Jésus a donné cette directive, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », depuis des millénaires, les chrétiens se font baptiser. Maintenant, lorsqu'ils se font baptiser, ils sont en train de s'identifier publiquement avec une personne particulière, la personne de Jésus-Christ. C'est une identification avec ce que Christ a fait. Le baptême représentait chez les Juifs, d'accord? Représentait chez les Juifs un moment de consécration ou de reconsécration, un moment de lavement, l'image de l'eau, où je vais être lavé, je vais être purifié de ce que j'ai pu faire, qui ont pu déplaire à Dieu ou aux gens autour de moi, ou qui m'ont montré que mon cœur n'était pas droit devant Dieu. Et cela représentait un retour à Dieu lorsque j'allais me faire baptiser comme Juif, et quelqu'un pouvait le faire plus d'une fois dans sa vie. C'était un témoignage public, ça se faisait souvent sur des bords de rivages, sur des rivages, et donc ça se faisait publiquement, et c'était un témoignage que je rendais publiquement d'un retour vers Dieu. Maintenant, Jésus-Christ a invité ses disciples à se faire baptiser, et le baptême a pris pour les chrétiens, à ce moment-là, on trouve ça entre autres dans les écrits de Paul, dans l'Épître aux Romains, dans le Nouveau Testament, le baptême a pris une nouvelle dimension qui est notre identification avec la mort de Christ. Avec la mort de Jésus-Christ, puisque les gens sont ensevelis dans l'eau. Et c'est pour ça qu'on n'a pas une pratique où on va baptiser les gens simplement par aspersion, mais on va les baptiser par immersion. Et donc, même si culturellement ça peut sembler étrange, on n'est pas sur le bord du fleuve en train de faire ça, on aurait peur qu'ils sortent verts, en fait, avec des yeux en plus ou des bras supplémentaires. Et donc, on fait ça dans l'eau qui est propre, non. Non, mais c'est pour ça qu'on le fait par immersion. C'est pour cette identification avec la mort de Christ qui est précieuse pour nous et pour rendre ce témoignage-là public devant tous. Comme je le disais tout à l'heure en introduction à la matinée, j'aime les témoignages. Personnellement, ça me touche encore après tellement d'années, parce que les témoignages, je trouve, rendent le christianisme plus concret. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais entendre l'histoire de quelqu'un, que ce soit n'importe quoi, hein, on aura beau me parler des grands brûlés et de me dire que je devrais avoir à cœur cette cause-là. Si on me raconte l'histoire de quelqu'un et que je peux voir cette personne-là me raconter son histoire, ces concepts-là qui devraient toucher mon cœur, pour lesquels avec le temps je deviens un peu indifférent, deviennent plus vrais, deviennent plus tangibles. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les témoignages me touchent pour ça. Bien, je trouve que dans le domaine de la foi, c'est quelque chose qui est donc encore plus utile et qui devient encore plus évidemment utile pour nous. Parce qu'il y a quand même une difficulté qu'on doit reconnaître lorsqu'on parle de Dieu. La difficulté principale, c'est qu'on est en train de parler d'un être invisible. D'accord? C'est quand même ça, Dieu, c'est un pur esprit. Et donc, lorsqu'on est en train de parler de croire en Dieu, on est en train de parler de croire dans l'invisible, n'est-ce pas? Et tout ça peut rendre la chose assez abstraite, assez conceptuelle, puis ça semble pas très vrai, ça semble peut-être être plus une idée qu'autre chose. L'image qui me venait lorsque j'étais en train de réfléchir à ça, c'est simplement le fait que des fois dans nos propres rapports humains les uns avec les autres, tu vas avoir un ami devant toi, tu vas avoir quelqu'un qui, tu l'as connu pour sa fidélité, tu l'as connu parce que c'est un chum pour toi, il est là pour toi, et puis il se passe quelque chose dans votre relation ensemble, puis à un certain moment donné, cette personne-là a beau être là devant toi, tu as de la difficulté à croire en lui. On a tous vécu ça, n'est-ce pas? Ça peut être l'être aimé, ça peut être un ami, ça peut être un proche parent, mais c'est quelqu'un en qui je devrais croire. Puis la personne est là devant moi physiquement. Mais pour toutes sortes de raisons, il s'est passé des choses dans notre relation et la personne a beau être là, se tenir debout, tangible devant moi, j'ai de la difficulté à croire en elle. Vous savez de quoi je parle? Cette foi-là n'est plus là. Je ne crois plus en elle, j'ai de la difficulté à lui faire confiance. Et ça nous arrive avec des gens qu'on voit, physiques devant nous. On peut les toucher. Alors si des fois on a de la difficulté à croire en quelqu'un qu'on peut voir de nos yeux toucher, imaginez un instant croire en Dieu, l'être invisible, celui qui est un pur esprit. C'est déjà tout un pas de dire que je vais croire dans son existence, cet être que je ne vois pas. De là à faire le pas que font Christian et Hélène aujourd'hui, en osant publiquement témoigner de leur foi, s'afficher dans leur foi, et un peu comme Christian l'a mentionné, en osant choisir ce Dieu comme mon guide, mon héros que je vais suivre, qui va conduire ma vie. Placer une telle foi dans un être invisible, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Pourtant, la Bible persiste à dire que Dieu est un pur esprit, que Dieu existe, mais que nous ne pouvons le voir avec nos yeux. On lit dans une des lettres que l'apôtre Paul a écrites à un de ses proches, compagnons d'œuvre, Timothée. On lit dans 1 Timothée 1:17, « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » La Bible persiste à nous dire que Dieu est un être invisible. C'est comme ça que Paul le décrit. Il dit au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. La Bible nous dit que Dieu ne peut se voir, parce qu'il est un pur esprit. Et donc, je crois qu'il est tentant. Et il est facile de se dire, ben finalement, est-ce qu'il existe cet être-là? Je ne le vois pas, je ne l'entends pas. Certains me disent qu'ils l'ont rencontré, qu'ils l'ont ressenti, qu'ils ont entendu son esprit leur parler d'une manière ou d'une autre. Mais après tout, ce Dieu-là, c'est peut-être juste une idée, un concept, quelque chose que l'humanité s'est donné parce que la vaste majorité des gens sur la terre croient tout de même à l'existence d'un Dieu quelconque. Ça a l'air qu'on ne s'entend pas tous sur le même. Mais la grande majorité des êtres humains, la très, très, très grande majorité des êtres humains croient dans l'existence d'un Dieu. Est-ce que c'est simplement une idée? Un concept que l'être humain, que l'espèce humaine s'est donné pour pouvoir donner un sens à son existence. Ne pas en rester à une simple vision matérialiste de la vie, se dire qu'on est matière, matière émotive, matière avec des rêves, avec des ambitions, avec des aspirations, mais simplement matière. Et lorsqu'on termine notre existence en termes de matière, tout s'arrête là. Ben, les choses semblent perdre leur sens à ce moment-là. Alors, on va donner un sens à ça. On va imaginer un créateur quelconque qui serait au-dessus de ça. Est-ce que Dieu ne serait pas simplement une idée? Puis une belle idée. une belle idée. Moi, j'aime l'idée qu'il y a un créateur qui est là, qui donne un sens à mes gestes et qui est là pour agréer lorsque je fais du bien à quelqu'un, lorsque je décide de faire quelque chose qui pourrait paraître irrationnel, comme donner de mon nécessaire à quelqu'un qui en a besoin. Christian nous parlait d'un paladin. C'est pas toujours rationnel, ça. Parce que tu fais beaucoup d'altruisme, beaucoup de charité, tu te donnes pour les autres. Et si je crois dans cette idée d'un Dieu quelconque qui est là, qui est à quelque part, qui veille sur nous, je suis en train de faire les choses sous son regard, pas simplement pour mon intérêt ou ce que les gens vont croire. Donc l'idée est belle, l'idée est intéressante. D'un Dieu qui voit aussi ce qui se passe sur la terre, le bien et le mal, et les choses qui sont terribles, et qui un jour va appeler chacun à rendre compte pour sa vie. Ça donne de l'espoir à ceux qui croient en ça. Ceux qui sont du mauvais côté de la chance, ça leur donne de l'espoir de croire qu'il y aurait peut-être un Dieu, un créateur qui un jour demandera des comptes à chacun. C'est une belle idée, Dieu. Est-ce que c'est juste une idée? Puisqu'il dit lui-même être invisible, c'est peut-être après tout seulement une idée que l'humanité s'est donnée. Et je crois que c'est facile d'en rester là. C'est pourquoi j'aime les témoignages et les baptêmes, parce que, à quelque part, ils me permettent de voir Dieu de manière plus concrète à travers la vie des gens. Maintenant, personnellement, dans mon cheminement à moi, dans ma quête à moi, comme dans celle d'Hélène, comme dans celle de Christian, un jour, j'ai découvert à travers les Écritures que Dieu avait fait un pas vers nous, comme esprit invisible, pour se rendre beaucoup plus concret à nous. Tout à l'heure, Hélène et Christian ont parlé d'une personne, un être humain, celui-là, Jésus-Christ. Et ce personnage-là est central dans l'histoire du christianisme. Il revient constamment sur la bouche des chrétiens. Vous les voyez porter des fois une croix pour représenter le symbole, cet endroit où cet homme, Jésus de Nazareth, a été crucifié sur une croix. Et donc, il y a ce personnage qui revient constamment. Constamment. Les Écritures nous disent que cet homme-là, Jésus de Nazareth, est plus qu'un simple homme, mais qu'il est l'incarnation humaine de Dieu. Et à ce moment-là, il y a des choses qui passent de l'invisible pour moi au visible. D'un esprit pur, il devient Dieu incarné homme. Je sais que ça demande encore de la foi. S'il était ici sur l'estrade, ce serait peut-être plus facile à croire. Mais voilà, il a vécu, il est mort. Les Écritures nous disent qu'il est ressuscité, qu'il est retourné au Père. Mais sa simple incarnation, le simple fait que Dieu, qui est pur esprit, soit devenu homme au milieu des hommes, rend ce Dieu invisible beaucoup plus concret à mes yeux. Voici ce qu'on lit dans une autre lettre de Paul, dans Colossiens 1,15. En parlant de Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit « Il est l'image du Dieu invisible. » En d'autres mots, Dieu est apparu et s'est fait connaître aux hommes de manière plus concrète que simplement comme esprit. Dans une autre traduction de la Bible, on a plein de traductions qui nous aident à attraper des subtilités, des fois des textes grecs et hébreux originaux. Dans la traduction du sommaire, voici comment c'est rendu. « Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. » Alors, les Saintes Écritures, la Bible nous dit que ce Jésus de Nazareth qui a vécu il y a 2000 ans était non seulement un grand sage dont on peut lire bien des récits, bien des paroles à travers les évangiles encore aujourd'hui, mais qu'il était beaucoup plus que ça. Il est la représentation même d'un Dieu que nous ne pouvons voir. Jésus-Christ est venu, nous dit la Bible, pour rendre visible l'invisible, pour rendre personnel un Dieu qui pourrait sembler abstrait à nos yeux, et pour nous permettre de connaître personnellement, à travers sa vie et ses paroles, à travers ses actions, ce qu'il est. J'apprends à croire en quelqu'un. Quelqu'un passe de l'état d'étranger pour moi à un ami intime, à quelqu'un qui m'est proche, lorsque j'apprends à le connaître personnellement. quand je passe du temps avec lui, quand je le vois intervenir dans ma vie dans des moments difficiles où j'ai besoin que quelqu'un soit là pour moi. J'apprends à prendre la mesure d'une personne. Et il y a des gens comme ça autour de moi qui se démarquent parce que j'apprends à les mesurer par leur fidélité, par leur patience à mon égard, par leur amour envers moi. Et plus j'apprends à connaître leur amour pour moi, plus j'apprends à croire en eux. Les Saintes Écritures nous disent que Dieu, cet être invisible qui pourrait sembler simplement être un concept abstrait, une idée, peut-être une belle idée, est venu se faire connaître aux hommes en s'incarnant, en devenant homme. Je sais que c'est capoté comme idée. Je sais que c'est complètement fou comme idée. Et pourtant, Christian et Hélène, en apprenant à connaître cet homme, en lisant les Évangiles, en lisant la Bible, en apprenant à le connaître dans ce qu'il a enseigné, dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a fait, ont progressivement appris à croire en lui comme personne. Christian nous a parlé d'un être qu'il cherchait, un être en qui il croyait, mais qui restait indéfini. Et lorsqu'il a lu les Évangiles, l'aspiration de son cœur pour connaître un être amour, un être parfait, toutes les petites phrases qu'il avait notées dans toutes sortes de lectures, quand il a lu les Évangiles, il a dit « Voilà! Voilà celui que je cherchais. » Il a marché parmi les hommes et il est venu pour nous, afin de nous faire connaître l'invisible, Dieu le Père. L'acte le plus grand que cet être-là a accompli, c'est un acte d'amour. Comprendre cet acte-là, c'est comprendre Jésus-Christ et c'est comprendre Dieu. Passer à côté de ça, c'est rester dans l'abstrait. C'est rester dans un concept qui ne vient peut-être pas avoir un impact dans ma vie personnelle. J'aimerais vous lire deux versets tirés toujours de la lettre aux Colossiens, écrite par Paul. Paul est en train de s'adresser à des chrétiens ici et il leur rappelle ce en quoi ils ont cru le jour où ils ont cru en Jésus-Christ. Ce qui s'est passé dans leur cœur, ce qui s'est passé dans leur relation avec Dieu. Et voici ce que Paul dit. « Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Vous n'aviez pas accès auprès de Dieu parce qu'il est cet être pur, parfait, et que vous êtes des êtres imparfaits et pécheurs. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. » Voilà ce qui s'est passé à la croix. Les Saintes Écritures, encore une fois, nous disent que tout ceci s'est passé à dessein. C'était dans les projets de Dieu, c'était dans les projets de Jésus-Christ lui-même. Et qu'il est venu et qu'il s'est incarné, qu'il est venu pour une cause première. Nous faire connaître Dieu, mais nous faire connaître Dieu à travers un acte particulier, celui de la croix. Les Écritures nous disent que lorsque Jésus s'est livré, il l'a fait volontairement. Ses soldats qui l'ont arrêté, il était consentant à son arrestation. Il n'a opposé aucune lutte. Il a collaboré avec eux. Il s'est laissé torturer par eux et il s'est laissé crucifier par eux. Parce que, selon les Saintes Écritures, c'était dans les desseins de Dieu, c'était dans les plans de Dieu. Jésus-Christ s'est offert sur cette croix. Lui qui était cet homme droit, pur, lisez les Évangiles, vous allez voir, c'est tout un bonhomme. Et il s'est offert sur cette croix en sacrifice pour nos péchés à nous. Et lorsque je saisis cela, cet être abstrait et invisible que peut être Dieu à mes yeux, devient un être de compassion, un être d'amour, bien personnel, que j'apprends à fréquenter en lisant la Bible, que j'apprends à aimer à travers mes prières et que j'apprends à imiter par mon style de vie. Ma prière pour chacun d'entre vous, c'est que vous cherchez ce Dieu-là. Et ce matin, à travers les témoignages qu'on a entendus, ce qu'on a vu, c'est que Dieu se laisse trouver. Parfois, les sentiers sont difficiles. Parfois, le chemin est long et pénible. Mais à tâtons, lorsqu'on crie à Dieu, éventuellement, il se révèle. Et il se révèle à travers la personne de son Fils. Et il révèle son amour et sa grâce à travers le sacrifice de la croix pour chacun d'entre nous. On va prier ensemble avant de passer au baptême. Mais Père éternel, je veux t'adorer ce matin. Seigneur, mon cœur a été encore une fois touché par ces beaux témoignages qui me parlent de toi, Père, de ta miséricorde, de ta patience, de ton amour, qui me parlent de toi, Seigneur Jésus, qui me rappellent, Seigneur, l'œuvre que tu as accomplie à la croix en ma faveur. En faveur de Christian, en faveur d'Hélène, en faveur de tous ceux qui veulent bien tourner les regards vers toi pour te connaître et croire en toi. Père, je veux te rendre grâce, je veux te remercier parce que Hélène et Christian ont trouvé en Jésus-Christ, dans son œuvre à la croix, une paix pour leur cœur, une paix qui repose non pas sur des concepts et des philosophies, mais qui repose sur un moment dans l'histoire où un homme est venu, un homme extraordinaire, un homme exceptionnel par ses enseignements, par les miracles qu'il a accomplis, exceptionnel par son don de soi, par sa droiture de cœur, par sa compassion, par sa douceur, exceptionnel par sa mort, par sa résurrection. Père, je veux te remercier parce qu'ils ont découvert en Jésus-Christ ta miséricorde et ton amour. Je prie de bénir ce jour, Seigneur, que ce soit un jour spécial pour eux, un moment béni. Et je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous dans cette salle, de venir faire ton chemin dans notre cœur. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen.
Juste avant de voir les baptêmes, on va prendre un chant ensemble. On va chanter un chant qui illustre bien ce qui se passe au moment du baptême, au moment où on s'identifie à Jésus-Christ, au moment de notre conversion et qui se manifeste par le baptême. On s'identifie à Christ dans sa mort, mais aussi dans sa résurrection. Et dans Galates 2, au verset 20, ça nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » On va se lever ensemble et on va chanter ensemble ce verset, ce chant. Crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, qui vit en moi. Crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant je vis par la foi en lui qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi, mon seul espoir de la gloire, c'est Christ qui vit en moi. Crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, qui vit en moi. Crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant ma vie est cachée en lui, il paraîtra et avec lui je paraîtrai aussi.
mon seul espoir de la gloire, c'est Christ qui vit en moi. Crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi, qui vit en moi. Crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi.
Merci, vous pouvez vous asseoir.
Hélène, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu?
Oui.
Et est-ce que tu désires le suivre?
Oui.
Alors, sur ta propre déclaration de foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Christian, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu?
Oui.
Et désires-tu le suivre?
C'est sûr.
Sur ta propre déclaration de foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Alors certainement, c'est beau de voir l'œuvre de Dieu dans les vies, de voir que Dieu est visible à travers eux. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour exhorter ceux qui n'ont jamais fait ce pas d'obéissance envers le Seigneur, de passer par les eaux du baptême. Vous avez accepté dans vos cœurs l'Évangile de Jésus-Christ, vous croyez que Jésus est votre Sauveur, qu'il est votre Seigneur, mais vous n'avez pas pris cette décision de passer par les eaux du baptême. Je vous encourage à y réfléchir, à obéir au Seigneur, puis à passer par les eaux du baptême.